Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour Fabienne. Vous avez vu, j'ai réparé mon micro et tout ça.
Vous êtes mécano.
Bah, je suis fort. Hein.
Vous êtes habile avec vos mains.
Oui. Alors le procès du 13 novembre continue. Vous savez, ce procès interminable. Et il y a eu toute une audience la semaine dernière, oui, qui a abouti à une espèce de réflexion où commence la radicalisation et où ça finit. On voit où ça finit. Il n'y a pas besoin de développer. Mais où ça, à partir de quand on peut dire que quelqu'un est radicalisé? Et ça m'a intéressé cette question-là, donc c'est extrêmement difficile à définir, évidemment. Alors, intellectuellement, c'est assez simple à définir. Hein. On devient radicalisé, quelle que soit l'opinion, quelle que soit l'idéologie, quelle que soit la religion, quelle que soit, à partir du moment où on n'accepte plus qu'une autre opinion, qu'une autre religion, qu'une autre conception existe.
Ah bon ?
À partir de ce moment-là...
Tout le monde est radicalisé ?
Non.
Hein ?
Non. Non. J'en reviens à mon concept fondamental de laïcité, qui est justement...
Ah non, mais par exemple, on va dire Mélenchon, il est radical.
mais Fabienne, si vous voulez épouser M. Mélenchon,
oh non.
Demandez-le en mariage.
Oh non,
qu'une fixette sur M. Mélenchon.
Bah parce que ça m'a révolté comment il était la dernière fois face à M. Zemmour, face aux policiers, etc. Je comprends pas qu'on soit candidat à la présidentielle et d'être comme ça.
C'est parce qu'il est comme ça qu'il est président.
Ah oui, candidat.
C'est un ego surdimensionné. Quoi. Voilà, bon. Alors, je disais donc, intellectuellement, c'est assez simple de voir que la radicalisation commence là où on ne peut plus accepter la différence idéologique, conceptuelle, intellectuelle de l'autre. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'intellectuellement, on est radicalisé. Juridiquement, c'est beaucoup plus difficile à définir, judiciairement et juridiquement, parce que le fait de ne pas accepter l'idée de l'autre, c'est pas un délit, c'est pas un crime. On peut pas le définir comme un crime ou comme un délit. Donc, juridiquement, il faut qu'il y ait une manifestation dans les faits de ce refus de reconnaître l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement délicat. Et bien sûr, les magistrats qui se posent sur ces questions-là sont pas prêts de sortir de cette difficulté-là. Voilà. Donc, cette audience-là était particulièrement intéressante parce que se posait quelque chose qui a été la noblesse, en fait, de la justice à la française, la noblesse de la démarche intellectuelle. C'est pour ça qu'il faut être tellement fier d'être ce que nous sommes dans notre civilisation européenne occidentale. C'est qu'on se pose ces questions-là dans les autres, dans d'autres pays, dans les pays totalitaires, dans les pays fanatisés. La radicalisation, elle est pas, on ne cherche pas à savoir où elle s'arrête. Où elle commence, c'est l'autre. Le radicalisé, c'est l'autre. Voilà. Pouf. Voilà, c'est celui qui pense pas comme vous. Voilà. Donc, mais là, on se pose la question où ça commence, où ça finit. Alors, c'est contre-productif quand on veut le tout sécuritaire, quand on veut absolument être dans des visions extrêmement tranchées du bien et du mal dans notre société. Mais c'est quand même le résultat d'une évolution intellectuelle, d'une démarche qui est noble et qui nous honore la civilisation à laquelle nous appartenons et que nous devons absolument défendre et protéger. Et puis alors, je voudrais revenir, quand même, j'ai oublié d'en parler là, dans le courant de la semaine, j'ai suivi, dans la douleur quand même, je veux dire, l'interview de M. Jean-Pierre Raffarin, par Ruth Elkrieff sur LCI. Je ne sais pas pourquoi on fait de tapis rouge à M. Raffarin, enfin bon, passons. Et ça me faisait penser à cette phrase d'Alexandre Sanguinetti, qui était un type du temps du RPR et qui avait le sens inouï de la formule. Alexandre Sanguinetti, c'était le sens de la formule. Et il avait dit, en parlant de je ne sais plus qui, il avait dit, mais quand on a des amis comme un tel en politique, c'est facile, c'est bien, c'est confortable parce qu'on n'a pas besoin d'ennemis. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et je me disais, avec M. Raffarin, la candidate de son parti, de sa famille politique, Valérie Pécresse, n'a pas besoin d'ennemis parce qu'elle l'a là. Alors ça paraît extrêmement, c'est plein de rondeur, c'est plein de mollesse, M. Raffarin, dans la démarche et dans tout ce que tu veux. Alors il dit, On lui dit, mais vous allez vous prononcer, que le soutien, monsieur, est tellement important que monsieur Raffarin apporte un soutien, vous comprenez bien, soutenir monsieur Macron ou madame Pécresse. Alors monsieur Raffarin, il a dit, non, mais j'attends que monsieur Macron délivre son programme. Peut-être va-t-il nous informer de puissantes réformes. Il aime bien les mots, de puissantes réformes. Donc, monsieur Raffarin, en 5 ans de Macron, il n'a pas encore bien compris comment ça fonctionnait, monsieur Macron. Quelle était la vision politique de monsieur Macron? Il n'a pas compris, probablement. Il attend qu'on lui dise le programme. Et alors, pour Valérie Pécresse, c'est là que ça vient terrible. Il a dit, mais pour Valérie Pécresse, j'attends qu'elle crédibilise sa présence au second tour. Mais c'est pas en la soutenant pas qu'il va crédibiliser les dires. Il attend qu'elle soit certaine et qu'elle ait crédibilisé sa présence au second tour pour s'engager peut-être à la soutenir. En fait, ça veut dire qu'il ne la soutient pas. Il serait honnête en disant, mais non, je ne soutiens pas Mme Pécresse, puisque j'attends d'avoir le programme de M. Macron et que j'attends qu'elle crédibilise, c'est-à-dire je ne vais pas contribuer à crédibiliser sa présence au second tour en la soutenant dès à présent. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de flottement. Et alors,
il attend un poste aussi, celui-là.
Oui, puis alors il est. Alors on lui pose toujours des questions sur ce qu'il fabrique en Chine. Alors il ment comme. Il dit, mais vous savez, moi j'ai permis à des milliers d'entreprises de s'implanter en Chine. Des milliers d'entreprises. Et des milliers.
Mais c'est pas très mal. Hein.
Et j'ai sorti des milliers de personnes. Des prisons. Alors, il faut savoir quand et lesquelles. Alors, ça, il faudrait demander, monsieur Raffarin. Vous avez sorti des prisons chinoises, des opposants probablement chinois et tout ça. Il faudra nous donner qui et lesquels, parce que ça peut se vérifier quand même. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'en fait, il coule la candidature de Valérie Pécresse. Il est d'une famille politique qui a défini un candidat par la primaire, qui a établi un programme. Ce candidat devrait être celui de tout. Et alors, il est quoi? Il est dedans, il est dehors, il est pas, il est où? Et il se permet de dire, j'attends qu'elle crédibilise sa présence au second tour. Ruth Krief aurait dû dire, mais attendez, tant que vous vous engagez pas, pourquoi voulez-vous qu'elle crédibilise? Vous pourriez aider, contribuer à cette crédibilisation. Vous pourriez vous mouiller un petit peu. Vous pourriez avoir un soupçon de courage politique, M. Raffarin.
Bon, s'il habite en Chine, il s'en fout peut-être de la France, non?
Bah, je crois que... Je sais pas. Mais j'arrive plus à m'intéresser à ces personnes. Vous savez, c'est cette espèce de... J'aimais pas beaucoup Alain Juppé pour ça. C'est-à-dire cette espèce de suffisance, d'arrogance, de certitude d'être intellectuellement supérieur aux autres, voilà, qui les anime. Ils sont dans cette démarche-là. Raffarin ne se cache pas d'être Juppé, juppéiste. J'habite avenue Juppé, avait-il dit un jour, dans une déclaration absolument formidable. Voilà. Et ça donne ça à l'arrivée. Comment voulez-vous gagner des élections avec des individus comme ça? Hein? Qui sont des boulets à traîner. Comment voulez-vous? Alors, monsieur Christian Jacob, là, qu'est-ce qu'il attend? Dire, monsieur Raffarin, faut que tu décides. Tu es dedans ou tu es dehors? Il faut qu'il utilise la formule de madame Le Pen. Si tu veux te tirer, tu te tires, mais maintenant. Parce que cette espèce de... C'est fou quand vous sortez de cette interview, vous dites, il vient de torpiller Valérie Pécresse. Il vient
c'est comme un autre, hein, Christian Estrosi, il n'est pas mieux. Hein.
Ah ben, alors là, voilà.
Alors lui, oh
voilà.
Je l'ai vu, alors j'ai zappé, c'était dans une émission sur la 5. Déjà, quand il a les plaies sur le visage, tout le temps, vous regardez juste son visage, quand il dit quelque chose, vous dites, ah lui, il est en train de nous mentir, ah oui, lui bluffe. Mais il a une façon au niveau du visage de parler, oh, c'est incroyable, incroyable. Et alors lui, non mais moi c'est pas possible quoi. Ça va toujours dans le bon sens, alors lui pour avoir, il cherche vraiment le poste hein, celui-là. Bon on se fait une pause.
Oui.